Radio Okapi.
Le journal Gisèle Cage.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Radio Okapi pour votre journal. Sans plus attendre, voici le grand titre qui font l'actualité aujourd'hui. Après Washington, Kagame attaque, Kinshasa répond. Le président rwandais critique la gouvernance congolaise et le porte-parole du gouvernement dénonce une tentative de diversion et réaffirme l'engagement pour la paix. Un entretien exclusif avec Patrick Muyaya à suivre en fin d'édition. Arou en Ituri, une page se tourne pour le HCR. Confronté à une crise financière, le Haut Commissariat ferme son bureau local tout en poursuivant son engagement humanitaire en faveur des réfugiés à travers ses partenaires locaux. Santé, résurgence du choléra. 25 de 35 zones de santé de la capitale sont désormais touchées par l'épidémie de choléra, annonce Félix Tshisekedi. Des mesures urgentes sont envisagées. Nous ouvrons ce journal avec un sujet qui fait la une de l'actualité régionale. Une semaine après la signature de l'accord de paix de Washington, le président rwandais Paul Kagame a vivement critiqué le gouvernement congolais, pointant sa gestion des conflits et sa gouvernance. Il a rejeté les accusations selon lesquelles le Rwanda serait à l'origine de l'instabilité dans l'est de la RDC, affirmant « Vous pouvez nous reprocher d'avoir tout fait pour arrêter le FDLR, mais vous ne pouvez pas nous reprocher d'avoir déclenché ce conflit tout en niant la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais. » En réaction, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, qui s'est exprimé ce samedi sur les ondes de Radio Okapi, accuse Paul Kagame de vouloir détourner l'attention des Congolais alors que ceux-ci attendent des avancées concrètes dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Il estime également que le président rwandais n'est pas en position de donner des leçons de démocratie tant que son pays ne garantit pas le pluralisme politique, ni la liberté de la presse, ni le respect de droits humains. Patrick Muyaya était au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
À mon avis, ces propos traduisent plutôt un certain désespoir, parce que ces mensonges répétés commencent à toucher à sa fin. Comment vous pouvez constamment nier les activités illicites dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que nous avons été à table et nous avons signé un accord? On ne peut pas signer un accord lorsque on ne s'est pas engagé dans un conflit. Mais d'autre part, est-ce que vraiment le président rwandais peut parler des démocraties? Est-ce que lui peut parler des respects de droits de l'homme? Mais comme il est si intéressé à la politique en République démocratique du Congo, il peut s'inspirer du modèle du président Tshisekedi dans un pays où les élections s'étiennent régulièrement, où vous avez une pluralité d'opinions, une pluralité des médias. Au Rwanda, il n'y a ni pluralité d'opinions, il n'y a ni élections crédibles. Ne nous demandez pas d'aller dans la boue. Et nous sommes plutôt de ceux qui pensent que lorsqu'ils vont bas, nous allons haut. Ce qui est attendu de lui, ce n'est pas faire preuve des propos qui, en réalité, ne sont pas de nature à respecter l'esprit de l'accord.
Patrick Muyaya qui s'exprimait sur nos antennes en Ituri. Un pas décisif vers la paix vient d'être franchi. Vendredi dernier, les groupes armés signataires de l'accord de paix Arou 2 ont amorcé une campagne de sensibilisation auprès de leurs combattants afin de leur transmettre le fondement du protocole de cessation définitive des hostilités dans la province. Cette initiative marque une étape cruciale du processus de paix soutenu par le gouvernement provincial et accompagné par la MONUSCO. La cérémonie officielle de lancement s'est tenue jeudi dans l'enceinte de la 32e région militaire à Bounia. Elle inaugure 3 semaines d'activités destinées à transformer les engagements signés en actions concrètes sur le terrain. Reportage de Isaac Remoyope depuis Bounia.
Tous les groupes armés, MAPI, Autodéfense, CODECO, FRPI, Chiniatuna et FPIC, présents aux assises d'Aroudé, ont largué leurs équipes dans leurs bastions dans les territoires des Djougou, Irumu et une partie des Mahagi pour sensibiliser leurs combattants. Leur démarche consiste à vulgariser le contenu des protocoles de paix signés par leurs leaders les 28 et 29 juin dernier à Arou. Parmi les points saillants de cet accord, la cessation de toute violence contre les populations civiles et les forces de sécurité et défense, l'interdiction de circuler avec les armes, la protection des personnes déplacées, la libre circulation des personnes et les retours des déplacés. Selon des sources concordantes, l'objectif est d'avoir zéro incident sécuritaire dans la province en attendant les processus de désarmement. Cette étape qui va durer 3 semaines bénéficie de l'appui financier du gouvernement provincial et de la MONUSCO. La feuille de route pour le suivi de cet accord prévoit à la deuxième phase le regroupement des groupes armés pour mener cette campagne, mais aussi l'inclusion des chefs coutumiers et leaders communautaires à la troisième phase. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Économie, bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. La menace d'une inscription sur la liste noire du groupe d'action financière, le GAFI, vient d'être levée. L'organisation intergouvernementale salue les efforts accomplis par les autorités congolaises, en particulier à travers la CNRF, la Cellule Nationale de Renseignement Financier. Le plan d'action conjoint mis en œuvre avec rigueur a été exécuté à hauteur de 92% selon les dernières évaluations du GAFI. Une performance qui écarte tout risque d'isolement de la RDC au sens du système financier international. Pour mieux comprendre le rôle du GAFI dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, Jeff Ngoy nous éclaire.
Il s'agit d'un organe qui a pour mission de définir et de promouvoir des stratégies pour lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Le GAFI établit des normes internationales et encourage les pays à les mettre en œuvre pour protéger le système financier mondial. Il encourage les pays à collaborer et à échanger des informations pour lutter efficacement contre les crimes économiques et financiers, notamment la corruption, le détournement des deniers publics, le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent, le trafic d'organes humains et de drogue. En y adhérant, la RDC et tant d'autres pays africains sont placés sous la surveillance dite « liste grise » afin de se conformer aux standards internationaux. Le GAFI reconnaît donc les prouesses de la RDC comme une sommation d'efforts et d'engagements politiques portés par le ministre des Finances depuis octobre 2022 et se dirige vers la sortie de la dite liste.
Retour en Ituri. Une page se tourne pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le vendredi 4 juillet, la fermeture officielle de bureaux opérationnels d'Arou, à quelques 280 km au nord de Bounia, a été annoncée au gouverneur de province par le chef de la sous-délégation du HCR. Ces décisions, selon Lydie Navigué, s'inscrivent dans le contexte d'une crise financière que traversent actuellement les Nations Unies. Elle a contraint l'agence à réorganiser ses antennes en Ituri et dont le Haut-Ouélé. Néanmoins, le soutien aux réfugiés d'Arou ne s'éteint pas. Avec cette fermeture, le HCR continuera à offrir son assistance par le biais d'organisations partenaires toujours actives sur le terrain. Un extrait de déclaration de Madame Navigué, sélectionnée par Martial Kizabiamongo.
On a subi une restructuration au niveau de notre bureau de l'Ituri et de Haut-Ouélé. Il y a notre bureau de Arou qui a fermé. Nous sommes déployés maintenant au niveau de Bounia et de Faradji. Donc on était venu apporter la nouvelle au gouverneur. On continue de nous occuper des réfugiés, des personnes déplacées, des communautés hôtes. Par exemple, au niveau de Arou, il y a nos partenaires qui sont présents, les autorités sont présentes. On va le faire à distance et puis faire des présences spontanées. On va faire des missions et tout ça pour pouvoir continuer à faire le travail. Et au niveau de Bounia, on va continuer de couvrir les personnes déplacées internes et puis aussi faire le lien avec Arou, cas de besoin. On continue de travailler avec les partenaires, notamment il y a MSF qui est là-bas, il y a Kopi, avec les autorités locales aussi au niveau de la chefferie de Kakwa. Je dis merci à l'autorité hein, parce qu'il fait partie de nos plus grands soutiens. Elle a toujours été aux côtés des humanitaires pour assurer la protection des populations, l'assistance aux populations.
Santé au Nord Kivu. L'avenir de la prise en charge des survivants de violences sexuelles et des personnes vivant avec le VIH suscite des vives inquiétudes. Le retrait du financement accordé par l'Agence américaine pour le développement international, USAID, risque de compromettre gravement plusieurs projets sanitaires en province. Cette rupture de soutien financier affecte directement le programme d'assistance, mettant en péril l'accès aux soins pour des milliers de bénéficiaires. Le coordonnateur provincial du programme national de lutte contre le sida, PNMLS Aubin Mongili, alerte sur les conséquences potentielles. Sans appui adéquat, ces populations vulnérables pourraient se retrouver sans prise en charge, ce qui, selon lui, favoriserait la propagation du VIH et une hausse inquiétante du taux de prévalence. On l'écoute dans ce journal au micro de Denise Lukeso.
C'était pour nous un coup de tonnerre d'apprendre ces gels-là, d'autant plus que cette aide humanitaire aidait un grand nombre de personnes, particulièrement à ce qui nous concerne, Les personnes vivant avec le VIH en étaient bénéficiaires par rapport à l'appui nutritionnel, les tuberculés aussi et les co-infectés. Ça, c'est un plus grand problème qui va continuer à affecter la population du Nord Kivu, particulièrement les personnes vivant avec le VIH. La proportion des survivantes des violences sexuelles liées au VIH est de 10 à 12% sur 100 femmes violées. C'est énorme. Alors si cette catégorie de personnes ne sont plus en charge, c'est-à-dire on serait en train de favoriser la propagation du VIH d'une manière sournoise, ne serait-ce que ces deux aspects-là nous sont déjà suffisantes pour constater les dégâts énormes que le manque de cet appui va causer au niveau de la communauté et au niveau de notre province.
À Kinshasa, le président de la République a annoncé lors de la 50e réunion du Conseil de ministres tenue le 4 juillet que 25 de 35 zones de santé de la capitale sont désormais touchées par l'épidémie de choléra. Cette résurgence a poussé le chef de l'État à exhorter le gouvernement à prendre des mesures urgentes et coordonnées pour endiguer la propagation de la maladie. Dans son compte rendu, le ministre de la Communication et Médias porte Porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, revient sur ses directives présidentielles et précise les dispositions envisagées. Un extrait de son intervention sélectionnée par Jean Gandou.
L'activation immédiate du plan des contingences en associant étroitement la division provinciale de la santé, les déploiements rapides des équipes médicales, des stocks d'intrants essentiels et des centres de traitement mobiles dans les zones les plus affectées, la désinfection systématique de points d'eau, des marchés, des écoles et autres lieux de forte fréquentation, la distribution massive d'eau potable, des kits d'hygiène et des produits des traitements d'eau dans les quartiers vulnérables. Le renforcement de la surveillance épidémiologique, du dépistage communautaire et de la communication de proximité afin de sensibiliser les populations, de lutter contre les rumeurs et de favoriser une adhésion collective aux consignes sanitaires. La coordination renforcée avec les partenaires techniques et financiers, en particulier ceux de l'OMS, de l'UNICEF, Médecins sans frontières et les agences humanitaires, pour mobiliser un soutien logistique, financier et opérationnel à la hauteur de la gravité de la situation.
Sur le plan sécuritaire, au Nord Kivu, la chefferie de Bwito vit au rythme de l'instabilité secouée par des affrontements armés à répétition dans les territoires de Rutshuru. Depuis près d'un mois, les combats opposent avec intensité les groupes armés locaux d'autodéfense appelés Wazalendo rebelles du M23. Ces affrontements engendrent un exode massif des populations civiles contraintes de fuir les zones des conflits pour échapper aux violences. Jeudi dernier, la localité des Mubirubiru a été le théâtre de combats particulièrement violents. Ceux qui tentaient jusqu'alors de rester sur place ont été forcés d'abandonner leur foyer dans la précipitation, laissant tout derrière eux. Le point complet avec Kaki Akewa.
Mubirubiru, c'est dans les regroupements Jiwondo. Ici, les combats ont été d'une rare intensité impliquant les Wazalendo du groupe CMC et les locales défense qui sont des éléments du M23 commis au contrôle des localités conquises par la rébellion. Il y a eu des tirs croisés d'obus. Les deux camps s'est canardant à tour de rôle. Les habitants n'ont eu des choix que de se mettre sur la route et quitter la zone. On les retrouve aujourd'hui à Kachuga, voire au-delà vers Kichanga et Mweso dans les territoires voisins des Masisi. Les accrochages qui ont commencé petitement tendent à embraser un vaste espace des environs de Nyanzale à Kachiru, passant par Bukombo et Nyarubande. Aujourd'hui, les témoins affirment que les agglomérations de Nyanzale, Kikuku, Mubirubiru, Munguli et Kasoko sont désertées. Il est très dangereux de s'y attarder. Des armes lourdes et légères y sont utilisées sans crier gare. Certaines familles qui ont tenté de s'installer dans les camps des déplacés d'Ibuga à Kachuga demandent une assistance d'urgence. Ils affirment manquer de tout. Pas d'abri, pas de nourriture, pas non plus de médicaments. Des salles de classe et des églises servent des logis pour d'autres déplacés en provenance de la localité. Des Nyarubandé affirment nos sources. Elles déplorent en outre une attitude jugée suicidaire chez certaines personnes déplacées. Elles n'hésitent pas à repartir dans les zones d'affrontement à la recherche des vivres dans les plantations.
Éducation. Alors qu'une lueur d'espoir apparaît pour les enseignants du Nord Kivu, l'inquiétude reste palpable depuis deux semaines. Ceux des territoires de Masisi, Rutshuru, Nyiragongo et d'une partie de Walikale reçoivent progressivement leur salaire via Mobile Money grâce à la Caritas, agent payeur mandaté. Toutefois, cette bonne nouvelle est ternie par une réalité frustrante. Nombre d'enseignants dénoncent une paye partielle et irrégulière sur six mois d'arriéré. Certains ne perçoivent qu'un ou deux mois, tandis que la majorité reste sans paiement. Ils pointent du doigt une rémunération à géométrie variable qui accentue leur précarité. Nous y reviendrons très prochainement.
Actualité internationale.
À l'occasion de 50 ans de l'indépendance des Comores, célébrée ce dimanche au stade Omnisport de Malousini, le président Azali Assoumani s'est adressé à des milliers de citoyens en présence de trois chefs d'État africains. Dans un discours empreint de solennité, il a placé l'unité nationale au cœur de son message, réaffirmant la volonté de voir Mayotte, toujours sous administration française, réintégrer l'ensemble comorien, évoquant l'épreuve traversée par les pays. Coup d'État, intervention des mercenaires, velléité séparatiste. Le chef de l'État a lancé un appel à un nouveau départ fondé sur les acquis du passé, mais tourné vers un avenir commun. Ce cinquantenaire n'est pas un aboutissement, mais un appel à l'action. Consolider nos institutions, renforcer l'État de droit pour bâtir un développement inclusif. C'est notre rendez-vous avec l'avenir, refuser les divisions et construire un État moderne où chaque citoyen a sa place et sa chance, a-t-il déclaré. Cependant, cette métendue n'a pas trouvé écho auprès de l'opposition, dont la majorité de représentants ont brillé par leur absence lors de la cérémonie.
L'invité.
Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, est l'invité de Radio Okapi. Il annonce la création imminente d'une commission chargée de veiller à la mise en œuvre de l'accord de paix récemment signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Au micro de Radio Okapi, il salue un accord qu'il qualifie d'historique. Il assure que le gouvernement congolais est pleinement mobilisé pour garantir des résultats concrets en vue d'un retour durable à la paix dans l'est du pays. Un entretien conduit par Blaise Nungala Mayanda.
Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour monsieur le ministre.
Après l'accord signé à Washington entre Kinshasa et Kigali, quelles sont les dispositions prises au niveau du gouvernement congolais pour la mise en œuvre effective de cet engagement?
Dans cet accord, il était prévu dans les 30 jours qui suivent la signature, la création d'une commission mixte de sécurité qui sera censée de suivre notamment sa mise en place du côté du gouvernement de la République démocratique du Congo, spécifiquement au niveau du ministère des Affaires étrangères. Les listes sont apprêtées pour la constitution de cette commission qui sera chargée de veiller à la mise en œuvre effective de cet accord. Évidemment, une commission qui comprendra aussi les équivalents du Rwanda, mais aussi de tout ce qui s'occupe de la médiation, parce que il faut avoir une structure de cette nature, suivant l'accord, pour être sûr que toutes les actions qui sont posées dans les timings qui sont indiqués sont respectées.
Quelle est l'incidence positive et négative de ces textes?
Je ne pense pas qu'il y a d'incidence négative. L'incidence positive, d'abord, c'est que on s'est accordé pour nous dire qu'il faut respecter l'intégrité territoriale de la RDC, des autres pays. On s'est accordé pour se dire que dorénavant, quelle que soit la nature de problème, on ne peut pas les régler militairement. On s'est accordé, encore une fois, pour nous dire qu'il faut absolument respecter, par exemple, la charte de l'Union africaine sur le principe de l'intangibilité des frontières, nous assurer de l'application de la résolution 2773. Dans cet accord, on a mis en place un mécanisme qui nous permet aujourd'hui pour que la conversation s'efface dans le sens de comment nous construisons la paix et de comment on s'y projette, parce que lorsque nous aurons atteint cet objectif d'une paix que le président de la République souhaite définitive et durable, on pourra travailler pour voir comment on crée un cadre d'intégration régionale qui va bénéficier d'abord aux populations congolaises, mais aussi à tous les pays de la sous-région.
Alors, qu'est dit l'accord, monsieur le ministre, par rapport à la gestion des rebelles de l'AFC M23?
L'accord parle d'autres processus qui sont en cours. Il y a à Doha un processus qui nous met en discussion avec les M23, d'ailleurs un processus qui pourra connaître son dénouement bientôt. Quand on aura fini de discuter avec les M23,
pour tout ce qui concerne les questions militaires de ce genre, il n'y aura plus de brassage, il n'y aura plus de mixage. Il y aura une intégration au cas par cas en suivant un processus de vetting. Ça veut dire qu'on va vérifier vos aptitudes physiques, on doit vérifier votre casier judiciaire, on doit être sûr que ceux qui doivent être réintégrés dans l'armée le soient parce qu'ils répondent aux critères. Auquel cas, il y a d'autres qui seront canalisés vers le programme de PDD-RCS qui a été conçu.
Les textes signés à Washington contiennent-ils des mesures coercitives en cas de non-respect de l'une ou l'autre partie?
Les textes en lui-même prévoient le mécanisme de règlement de différends. Ici, un accord évidemment s'exécute de bonne foi. Un accord qui a été signé de manière libre. Chaque pays a eu le temps de lire, d'avancer ses arguments. Il faut être justement de mauvaise foi pour sortir de ce cadre signé sous les auspices du gouvernement américain. Jamais on n'a vu un tel niveau d'implication du gouvernement américain. Pour nous, constitue comme une forme de garantie. Et donc aujourd'hui, pour nous, nous travaillons pour que cet accord puisse produire les effets escomptés.
Le président rwandais Paul Kagame, lors de sa récente sortie médiatique, tacle son homologue congolais, Félix Tshisekedi, sur plusieurs dossiers. Vous ne craignez pas que cette sortie médiatique entrave, voire même jette les pavés dans la mare dans ces processus entamés à Washington?
Il n'y a rien à craindre parce que de toute façon, de lui, on est coutumier d'avoir des propos, à mon avis. Ces propos traduisent plutôt un certain désespoir parce que ces mensonges répétés commencent à toucher à sa fin. Comment vous pouvez constamment nier les activités illicites dans l'Est de la République démocratique du Congo alors que nous avons été à table et nous avons signé un accord? On ne peut pas signer un accord lorsque on ne s'est pas engagé dans un conflit. Est-ce que vraiment, comme il est si intéressé à la politique en République démocratique du Congo, il peut s'inspirer du modèle du président Tshisekedi dans un pays où les élections s'étiennent régulièrement, dans un pays où vous avez une pluralité d'opinions, une pluralité des médias? Au Rwanda, il n'y a ni pluralité d'opinion, il n'y a ni élection crédible.
Monsieur le ministre, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Vous venez d'entendre Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, qui s'exprimait sur le suivi de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Une intervention qui éclaire les démarches en cours pour ramener la stabilité dans l'est du pays. C'est la fin de ce journal sur Radio Capi. À la mise en onde, Billy Landry Betou. Présentation Gisèle Cage. Coordination éditoriale Jude Mister Bilonda. Merci de nous avoir suivis. Pour rester informés en temps réel, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook et X ou visitez notre site web www.radiocapi.net. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur la même fréquence.